Gabriel Nadeau-Dubois, auriez-vous fait les choses différemment en 2012 avec la crise étudiante?
J'étais très jeune en 2012. Les gens, je pense, sous-estiment à quel point, bien sûr moi, mais les gens qui coordonnaient, qui organisaient ce mouvement-là, nous étions tous très jeunes. Moi, j'avais 21 ans au début de cette mobilisation-là. Les gens m'ont vu à la télé et je pense ont pensé que j'étais un jeune homme d'expérience qui en avait beaucoup derrière la cravate, tout ça, alors que j'étais tout jeune. Ça faisait quoi, 5 ou 6 ans que je militais dans le mouvement étudiant. Donc, il faudrait que je manque beaucoup d'humilité pour dire aujourd'hui, au début de la trentaine, que j'avais 21 ans et que j'ai tout fait ça parfaitement et que je ferais rien différemment. Bien sûr, je ferais beaucoup de choses différemment, c'est certain. Maintenant, quand je me replace dans les souliers qui étaient les miens à ce moment-là, dans les contraintes qui étaient les miennes, avec le peu d'expérience que j'avais, avec des responsabilités énormes qui me sont littéralement tombées dessus du jour au lendemain, je pense qu'on s'est plutôt bien débrouillé. Mais c'est sûr qu'il y a plein de choses que je ferais différemment.
On sentait, à travers les sorties médiatiques, le mépris de Jean Charest. Est-ce que c'était ça? Parce que, bon, vous avez négocié, c'était fermé, puis il y a eu des longues heures avec lui, puis ce que ressortaient les images, quand on mettait la caméra sur vous, oui. on sentait qu'il y avait du mépris. Est-ce que vous avez senti ça?
Oui, je l'ai senti. Il y a eu du mépris ce printemps-là envers les étudiants, les étudiantes qui manifestaient, envers la jeunesse québécoise. Il y a eu du mépris politique, puis il y a eu du mépris médiatique aussi. Il y a des choses qui se sont écrites ce printemps-là qu'on relirait aujourd'hui et qu'on trouverait complètement disproportionnées. Des charges médiatiques à fond de train contre des jeunes hommes, des jeunes femmes qui militaient pour changer le monde, qui militaient pour améliorer leur société, qui militaient pour un projet de société de justice sociale, de bien commun, pour sauvegarder un héritage québécois, celui de l'éducation publique, accessible, et puis ce qu'on défendait nous à l'époque, gratuite. Et il m'arrive par moments de relire certaines choses qui s'écrivaient ce printemps-là, et c'est phénoménal. L'agressivité, la hargne, la haine, contre ces jeunes-là qui
une génération, finalement.
Contre une génération qui, en fait, faisait ce que tant de générations ont fait à cet âge-là, avant elle. Puis il y a tellement de nos avancées sociales au Québec qui sont dues à la mobilisation des jeunesses, donc celle de 2012, mais toutes les jeunesses qui l'ont précédée également, que ça m'apparaît aujourd'hui. Plus je prends du recul, plus ça m'apparaît disproportionné, cette haine et cette charge qu'il y a eu à l'encontre des jeunes en 2012, de la part, oui, du pouvoir politique, mais également dans l'espace public.
Est-ce qu'il y a eu des excuses après? Est-ce que vous avez recroisé ces gens-là, le premier ministre, ou suite à ça? Parce que parfois, il y a une crise et puis, bon, finalement, les mots dépassent notre pensée. Est-ce qu'il y a eu des excuses?
J'ai recroisé à une reprise Lynn Beauchamp. C'était aux funérailles, je crois, de Bernard Landry. Oui. J'ai recroisé Michel Courchesne de très loin dans un événement. J'ai jamais recroisé M. Charest. Il n'y a pas eu d'excuses. Puis honnêtement, j'en attends pas. Je pense que... Bon, d'abord, Mme Beauchamp, et ça, je l'ai compris, nous l'avons compris à l'époque en 2012, a été envoyée au front mener une bataille qu'elle avait plus ou moins envie de mener. Et puis d'ailleurs, quand
souvent,
les choses
ce qu'on
sont...
fait avec les femmes, les envoyer au front.
C'est pas la première fois qu'on voit ça.
Voilà.
Surtout pas de la part de M. Charest. Je me permets quand même de le dire. Donc, et Mme Beauchamp, on se rappellera, a été relevée de ses fonctions très rapidement quand ça s'est mis à se corser, parce que je pense qu'elle avait profondément pas envie de mener cette charge-là contre les étudiants, les étudiantes. Et donc, tout ça pour dire que non, je m'attends pas à des excuses. J'ai pas ce besoin-là. Ces gens-là faisaient de la politique. Je pense qu'ils ont fait de la très mauvaise politique. Je pense qu'ils ont fait des énormes erreurs. Ça aura coûté le pouvoir à Jean Charest. Je pense que c'est une punition bien suffisante et j'ai pas besoin qu'il s'excuse.
Ce qui vous a donné envie d'aller en politique, enfin, on est venu vous chercher, mais quelqu'un, vous le dites, quand on a un article sur vous, le nom est associé à Françoise David, quelqu'un que vous admirez, et vous avez appris énormément de Françoise David. Donc là, finalement, vous vous lancez en politique. comment ça a été la première fois parce que c'est des chaussures là, ces ouais. chaussées de venir remplacer entre guillemets ce que Madame Davine avait fait.
Ça a été bon. C'était tout un mandat que de prendre le siège qui était laissé vacant par Françoise. J'ai rapidement assumé le fait que je n'étais pas Françoise David, puis que je ne deviendrais pas Françoise David, ni même la version jeune et masculine de Françoise David. J'ai pas le même tempérament que Françoise, j'ai pas le même style que Françoise, mais on a beaucoup de points en commun, bien sûr, sur le plan des valeurs, sur le plan du projet de société. On est deux personnes profondément engagées. Mais j'ai rapidement décidé de pas me mettre cette pression-là. Mmh. Je l'ai pas beaucoup. J'ai senti qu'au niveau, disons, de l'Assemblée nationale, au niveau de l'espace public, rapidement, j'ai fait ma marque avec mon style, mon approche. Dans la circonscription, ça a été plus long. Dans la circonscription, j'ai plus longtemps senti à quel point je chaussais de grandes chaussures, parce que Françoise était une députée de terrain extrêmement enracinée qui avait habité des dizaines d'années dans la circonscription. Moi, j'y ai emménagé tout juste à mon élection, donc j'ai pendant quelques années dû travailler fort pour rattraper cette réputation-là qui était celle de Françoise, qui, dans le quartier de la petite patrie, dans le comté de Gouin, Françoise était partout, tout le monde la connaissait, elle était très aimée, puis ça a été sans doute la côte qui a été la plus rude à montrer.
Un moment un peu plus difficile avec Québec solidaire, y en a deux en fin de compte, le moment où il y a une tentative de réunion PQ-Québec solidaire, c'est Jean-François Lisée qui est là, on entend par bride que l'alliance va se faire. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On ne sait pas qui a tiré sur le fil pour dire si ça ne se fera pas. Parce qu'au niveau de l'indépendance et de l'environnement, on sait que Québec solidaire est positionné, mais au niveau de l'indépendance, il y avait un peu plus de clarté au niveau de ce parti, et d'où l'alliance. Mais qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Puis qu'est-ce qui s'est passé en coulisses, on peut le dire maintenant? Pourquoi ça n'a pas fonctionné?
La principale raison pour laquelle il n'y a pas eu d'entente électorale, parce qu'il faut mettre les choses au clair, il n'y a jamais été question de fusionner les partis. Il y a eu, à un certain moment, un projet de pacte électoral pour éviter de trop, disons, se piler sur les pieds durant l'élection, tu sais, grosso modo. Bon. La principale raison pour laquelle ça ne s'est pas arrivé, c'est Jean-François Lisée. Si vous voulez que je dise les choses clairement, c'est la principale raison.
C'est pour ça qu'on est
là. Monsieur Lisée, il faut le rappeler, à l'époque, il a gagné sa course à la chefferie contre Alexandre Cloutier en utilisant des arguments et des propositions politiques qui étaient extrêmement divisives, pas seulement envers Québec solidaire.
Mais vous faites allusion à la burqa, le
AK-47,
tout ça,
les propos sur les réfugiés, hein, c'est la fameuse...
Donc c'est là que ça a reculé, c'est là que ça...
S'il y avait eu un différent chef au Parti québécois, je pense que l'histoire aurait pu être différente. Puis il faut rappeler que ces propos-là, puis ces positions politiques-là de M. Lisée n'étaient pas seulement divisives envers Québec solidaire, elles étaient divisives au sein du Parti québécois, puis au sein du mouvement indépendant en général. Alors, donc, c'est sûr que... Et ça, c'est un an avant.
Ouais.
C'est la course à la chefferie de 2016.
Alors, c'est ça que ça a fait que, finalement...
Ben, si on me demande, là, à posteriori, la raison fondamentale, qu'est-ce qui a mis le verre dans la pomme de ce projet d'alliance-là, moi, je pense que c'est cette stratégie de M. Lisée qui, par la suite, a été très habile en mettant très rapidement toute la responsabilité sur les épaules de Québec solidaire en disant, une fois que j'ai gagné comme ça, ben là, je remets la balle dans le camp des solidaires en disant... Voilà, mes bras sont ouverts, faisons une alliance.
Alors, en ce moment, on a vu dans les journaux, il y a eu de la grouille, il y a des radicaux chez vous. C'est pas évident, il y a eu des renvois. Comment vous allez faire pour vivre avec ça? Parce que c'est vraiment, Québec solidaire, au niveau de l'environnement, ça avance, mais au niveau de ce qui est de la radicalité, ça ne rejoint pas les Québécoises et les Québécois. Mmh. Comment vous allez faire? Parce que maintenant, vous allez avoir un rôle plus important au sein de Québec solidaire. Qu'est-ce que vous allez faire?
Québec solidaire est un parti de membres, est un parti démocratique, est un parti tumultueux, comme l'a été longtemps le Parti québécois par ailleurs, comme le sont les partis de gauche en général, hein, pas seulement au Québec, mais partout dans le monde. Ça représente, oui, des défis à certains moments. Mais je pense que c'est un parti qui a pris beaucoup de maturité depuis 2018. C'est un parti qui n'était pas habitué d'abord à avoir une aile parlementaire, à avoir des députés. On a eu d'abord Amir, ensuite Amir et Françoise, ensuite Amir, Françoise et Manon. Tout ça a été très long, mais c'était, au fond, un tout petit groupe de députés. Là, c'est la première fois qu'on a à proprement parler, un caucus de députés, de 10 députés, dont la moitié sont à l'extérieur de Montréal et la moitié à Montréal. Donc, c'est une nouvelle réalité politique pour nous, puis ça nous a pris un moment à s'adapter. Et ce qu'on a vécu lors de notre dernier Conseil national, c'est une des étapes, je pense, désagréables, reconnaissons-le, à travers laquelle il faut passer pour grandir comme parti. Mm-hmm. Ce qui est intéressant de se rappeler, c'est qu'à notre dernier Conseil national, les membres ont tranché. C'est pas Manon et moi qui avons tranché. Ben nous, on a exprimé notre opinion claire puis notre recommandation claire envers nos membres. On s'est pas caché, on a assumé un leadership. On a dit, nous, on pense que le combat contre le racisme systémique, c'est un combat important, mais il y a des manières intelligentes et productives et rassembleuses de le mener, et il y a des manières divisives et contre-productives de le mener. Mm-hmm. Et nous, on a tranché d'un côté en disant aux membres, maintenant, c'est à vous. En fait, c'est à vous de trancher. C'est pas nous qui allons trancher, c'est vous. Et les membres ont une écrasante majorité tranchée du côté d'une approche qui est inclusive, qui est généreuse, qui est ouverte, qui est axée sur le dialogue, qui est axée sur la création d'alliances et non pas le pointage de doigts et la création de fractures sociales pour rien. Alors, ça n'a pas été facile comme moment pour le parti. Mais c'est comme l'adolescence, hein. Des fois, en grandissant, il y a des petites douleurs. Mais il faut parfois passer par là pour atteindre la maturité.
Dernière question. Vous allez rentrer bientôt à Québec. Qu'est-ce que vous allez vous attaquer à quoi au niveau de la pandémie?
Moi, ma mission pour la prochaine année, comme tout nouveau chef parlementaire de Québec solidaire, c'est de réinscrire la question environnementale, la question de la lutte au changement climatique au sommet des priorités. La pandémie, il va falloir vivre avec et pour un bon moment, et on ne pourra pas laisser sur le rond arrière la lutte au changement climatique éternellement.
Mais vous êtes pour le débat, pour le passeport? Êtes-vous pour le...
Oui, ben, sur la question de la pandémie, là, il va falloir que M. Legault reconnaisse que on n'est plus le 25 mars 2020 où tous les yeux étaient rivés sur lui et où il pouvait gérer cette chose-là seul. Les Québécois, maintenant, ont compris que la pandémie est là pour rester. Il va falloir être capable de discuter de ces choses-là démocratiquement et il va devoir accepter, M. Legault, que les oppositions ne sont pas là pour nuire. Elles sont là également pour proposer, puis il va devoir travailler avec d'autres personnes que ses conseillers en communication.
Je change de fédéral cette oui. fois-ci. Juste une phrase. Que pensez-vous des élections en ce moment et de ce que ça donne?
Je trouve, et le débat d'hier en était l'exemple, qu'on ne parle pas assez de lutte au changement climatique.
Merci beaucoup, Gabriel.
Ça m'a fait plaisir.
Merci.